Merci David pour la lecture. C'est un long passage, mais si ça peut vous soulager, dans la synagogue, quand on fait la lecture le sabbat, c'est généralement trois chapitres de l'Ancien Testament, surtout de la Torah, et généralement c'est lu en hébreu. Alors j'espère que cette histoire a été claire, c'est toute une histoire de l'un des premiers juifs pour Jésus. Il n'y avait pas de braille à l'époque. L'homme n'a reçu aucune éducation formelle, mais il devait savoir que l'un des piliers du judaïsme, c'est la tzedaka, qui veut dire l'aumône, et qu'il était particulièrement méritoire de donner l'aumône à quelqu'un qui était aveugle. Ainsi, cet homme vivait bien de son handicap. L'histoire commence avec une question. Jésus et les apôtres sont de passage, ils voient l'homme et les apôtres posent la question « Rabbi, qui a péché cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle ?» Le judaïsme reconnaît que tout homme est pécheur et juste entre parenthèses, aujourd'hui, beaucoup dans ce monde ne reconnaissent pas le péché. Mais cette histoire est avant tout une histoire de péché pardonné. C'est bien sûr l'histoire d'un aveugle né qui est guéri, mais plus loin et plus important, c'est une histoire de guérison, de salut par le pardon du péché. Selon la tradition juive, le péché conduit à la souffrance. Les rabbins s'appuient, par exemple, sur un texte comme Exode chapitre 20, verset 5. C'est le passage où Dieu donne les 10 commandements. « Moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération. » La conséquence du péché, c'est la souffrance. Et ça, c'est un enseignement purement biblique. Mais les rabbins de l'époque, et encore aujourd'hui, y vont plus loin et faisaient erreur de penser que parce que le péché conduit à la souffrance conduit toujours au péché. Ou disons que la souffrance est la conséquence du péché. Et ce n'est pas toujours le cas. Mais c'est pour cela que les apôtres posent la question « Qui a péché cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle né ?» Il y avait la présupposition que parce que l'homme était handicapé, quelqu'un a dû pécher pour qu'il ait cet handicap. Le judaïsme pose la question « À quel moment de la vie le péché fait-il son entrée dans la personne ?» Et certains rabbins disaient que c'était à la naissance, directement à la naissance que le péché entrait dans le bébé. D'autres rabbins disaient que le péché peut entrer dans le cœur du bébé, même quand il est au sein de sa mère. Et d'autres rabbins disaient que le péché entre seulement à partir de la bar mitzvah, c'est-à-dire l'âge de ce qu'on appelle dans l'Église catholique la première communion, l'âge où le garçon devient un homme à 13 ans. Voilà ce qui illustre que dans le judaïsme, il y a plusieurs opinions sur l'origine du péché et le moment que le péché entre dans une personne. Ça montre vraiment l'expression « deux juifs, trois opinions ». Mais la question « qui a péché, lui ou ses parents » peuvent nous paraître plutôt ridicules. Mais quand même, dans le monde chrétien, je vois que nous, en tant que chrétiens, on peut avoir des débats qui ne sont pas très fructueux. On peut se demander quelle faute une personne a commise pour qu'elle se trouve dans de telles détresses ou difficultés. On peut même prendre plaisir de se nourrir des problèmes, soit les nôtres ou les problèmes des autres, en discuter, et souvent nous pratiquons en tant que chrétiens la médisance. Souvent nous sommes des commères sous prétexte de nous concerner des problèmes d'autres. Mais voici, dans cette histoire, Jésus ne s'arrête pas sur le problème. Pourquoi et comment le péché est entré dans l'homme? Est-ce que c'était à cause de lui ou ses parents qu'il est né handicapé? Jésus ne se fatigue pas de débattre sur l'origine du péché, ou même sur le péché originel, qui est souvent un débat entre chrétiens. Et moi, je dis toujours, après tout, il n'y a rien d'original. Le péché, c'est quelque chose dont nous souffrons tous. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais Jésus ne s'arrête pas sur le problème du mal qui est en nous. Il propose la réponse. Il offre la solution. Verset 3, « Ce n'est pas lui ou ses parents qui ont péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. » Dieu veut que nous nous fixons sur lui, fixons nos regards sur Jésus, l'auteur et celui qui perfectionne notre foi. C'est lui qui apporte le pardon et le salut. Ne nous arrêtons pas sur les problèmes, mais voyons que tout problème est une opportunité pour la grâce et la puissance de Dieu d'agir. Et ici, la solution de Dieu, c'est la guérison de l'aveugle né. Ça, c'est un peu le background sur la question du péché. Et puis, il y a une autre chose qui entre dans l'histoire, c'est que ce miracle se déroule le jour du sabbat, c'est-à-dire du vendredi soir au samedi soir. Peut-être vous êtes surpris que dans la tradition juive, le jour commence avec le coucher du soleil. Mais moi, je pense que c'est encore plus bizarre que dans le monde ordinaire, séculier, le jour commence à minuit. Mais voilà, il est écrit dans la Genèse qu'il y a eu un soir et un jour, c'était le premier jour. Et c'est pour cela que dans la tradition juive, le jour commence avec la couchée du soleil. Mais voilà que ce guérison se déroule un jour de sabbat. Et nous lisons dans verset 13, « Ils menèrent, c'était les amis de l'aveugle né, vers les pharisiens, celui qui avait été aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait deux choses. Il avait fait de la boue et il lui a appliqué, il a craché sur la boue et il a appliqué ce remède sur les yeux de l'homme aveugle-né. La boue, avec le crash de cet homme, de Jésus, a formé un remède qu'il a appliqué sur les yeux de l'homme. L'homme est allé à la piscine de Siloé, il a rincé les yeux et puis il a vu. Et Jésus a sciemment, délibérément, fait deux choses qui étaient interdites de faire selon les rabbins. Il a fait du travail en faisant de la boue et un remède. Et voilà que les rabbins étaient insensés parce qu'ils pensaient que Jésus enfreignait la loi du sabbat. Et c'était un péché grave, pas selon la tradition, mais selon la loi de Dieu. Dans Exode chapitre 31, au verset 15, nous lisons « Quiconque fera quelque ouvrage le jour du sabbat sera puni à mort. » Ce n'était pas une petite chose d'aller contre la loi du sabbat. Et les rabbins ont dit à propos de Jésus « Cet homme ne vient pas de Dieu » car il n'observe pas le sabbat. On lit cela au verset 16. Et avant cela, dans Jean chapitre 5, au verset 18, on lit que les chefs religieux voulaient tuer Jésus, le mettre à mort, pour deux raisons. La première, qu'il violait le sabbat, et deuxièmement, qu'il se prenait pour Dieu. les deux raisons pour lesquelles les chefs religieux voulaient mettre Jésus à mort. Est-ce qu'ils avaient tort de vouloir exécuter Jésus, d'avoir enfreint, d'avoir violé les lois du sabbat? Absolument pas. C'est la Torah, c'est la Bible elle-même qui dit « Celui qui viole le sabbat doit être mis à mort ». Est-ce que les chefs religieux avaient tort d'accuser Jésus d'avoir violé le sabbat? Absolument oui. Jésus n'avait pas du tout violé les lois du sabbat. Il avait contrecarré les traditions, les interprétations rabbiniques. Vous voyez les rabbins face à cette loi dans l'Ancien Testament qui dit « Ne violez pas le sabbat sous peine de mort » avaient pris beaucoup de précautions afin que l'homme juif qui voulait suivre la voie de Dieu ne viole pas le sabbat et ainsi soit mis à mort. Mais en faisant cela, ils ont ajouté règle sur règle, au point qu'aujourd'hui, un juif pieux ne peut pas allumer une lampe, il ne peut pas éteindre une lampe, il ne peut pas faire la cuisine, il ne peut pas porter un mouchoir. Toutes sortes de petits règlements qui sont imposés pour le sabbat. Et c'est Jésus qui disait « Vous nullifiez la Torah, la loi, par vos traditions. » Et en prenant de la boue et en crachant sur la boue pour faire le remède, il démontrait visiblement qu'il n'était pas d'accord, pas avec la loi de Dieu, mais avec l'interprétation des hommes. Dans Marc chapitre 3, à partir du premier verset, je vais lire quelques versets, Jésus entre dans une synagogue. Il trouve un homme qui a une main sèche. Les gens de la synagogue observent Jésus pour voir s'il va guérir le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Jésus dit à l'homme qui avait la main sèche, « Lève-toi là au milieu. » Puis il leur dit, « Est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer ?» Mais ils gardèrent le silence. Alors, promenant ses regards sur eux avec indignation et en même temps affligé de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, « Étends ta main !» Il l'étendit et sa main fut guérie. Et à partir de ce moment-là, les chefs religieux sortirent et aussitôt se consultèrent avec les Hérodiens sur les moyens de tuer Jésus. Et Jésus a annoncé qu'il était permis de faire du bien le jour du sabbat. Il a contrecarré une tradition rabbinique qui interdisait toute guérison jusqu'aujourd'hui, le jour du sabbat, à moins que ce soit pour sauver la vie d'un homme. Et l'aveugle né n'était pas en danger de mort, alors selon les rabbins, cette guérison aurait pu attendre le lendemain. Mais Jésus a choisi de montrer que lui seul avait l'autorité d'interpréter et de connaître la loi et l'interprétation de la loi. Alors, deux choses sur l'arrière-plan de cette histoire, le péché et le fait que la guérison se déroule un jour de sabbat. Mais moi, j'aimerais que nous entrons dans l'histoire maintenant pour voir la réaction de ces différents groupes de juifs face à la guérison. Et juste un entre parenthèses, quand vous lisez dans l'évangile de Jean les juifs, il ne parle pas de tous les juifs, il parle du parti religieux. Parce que les pharisiens sont des juifs, les voisins sont des juifs, la famille de l'aveugle né sont des juifs, les apôtres sont des juifs, ils sont tous des juifs, mais quand Jean parle des juifs, il parle des chefs des partis religieux opposés à Jésus. Alors regardons maintenant la réaction des différents groupes de juifs face à cette guérison miraculeuse. Premièrement, le peuple est divisé. Souvent, on pense que les Juifs, en général, ne s'intéressent pas à l'Évangile. Eh bien, cet après-midi, il y aura une moitié des personnes qui viennent à la conférence dans un hôtel ici à Genève, qui sont des Juifs qui ne connaissent pas le Seigneur, mais qui viennent entendre, écouter le témoignage de moi-même et deux autres Juifs messianiques. Et on lit dans versets 8 et 9 que le peuple, les gens ordinaires, les voisins de cet homme aveugle-né, étaient soit ouverts ou indifférents. On lit, ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, n'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait ? Les uns disaient, c'est lui, d'autres disaient, non, mais il lui ressemble. Et je me suis posé la question, comment est-ce que des voisins, des amis de cet homme ne puissent pas le reconnaître simplement parce que ses yeux ont été ouverts? C'est parce qu'il y a une transformation qui n'est pas simplement physique. Quand le Seigneur Jésus nous touche, il y a une transformation spirituelle. Et on devrait voir chez le chrétien la lumière du Seigneur, de Jésus, qui brille dans les yeux et sur le visage. Mais voilà que les gens ordinaires représentent la populace d'aujourd'hui. Il y a certains qui sont indifférents à l'Évangile, il y a d'autres qui sont ouverts, et il y aura d'autres qui sont opposés. Regardons même les chefs religieux. Verset 16. Quelques-uns des pharisiens dirent, « Cet homme ne vient pas de Dieu, car il n'observe pas le sabbat. » D'autres pharisiens ont dit, « Comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles ?» Et il y eut division parmi eux. Eux, c'est les chefs religieux, c'est les pharisiens. Même eux, ils étaient divisés à l'égard de Jésus. Vous avez vu une photo avec un ami pasteur et un ami rabbin. Cet ami rabbin est en recherche pour connaître Dieu. Il connaît toute la religion par cœur, comme Nicodème dans Jean chapitre 3. Il a toute la religion, mais il n'a pas de relation avec le Seigneur. Un jour, quand Déborah et moi, on habitait à Londres, on a fait connaissance, on est devenu amis avec un couple. Lui, il est juif, il s'appelle Steven Blumenthal, c'est un nom bien juif, et sa femme, Natacha, est une rose anglaise de souche protestante. Et lui, il a un travail typique pour un juif, il n'est pas dans les finances, il n'est pas avocat, il n'est pas médecin, il est psychanalyste. N'oublions pas que Freud était un juif. Alors c'est un psychanalyste freudien qui est athée, comme beaucoup de juifs, comme ma famille, athée. Et un jour, il y a sa femme protestante qui se disait chrétienne, qui dit devant son mari et devant moi, mais je ne comprends pas du tout juif pour Jésus. Et Steven répond, mais c'est simple. Le judaïsme, c'est une religion. Le christianisme, c'est une relation avec Dieu. Il comprenait que le défi de l'histoire de Jésus, c'est qu'il offrait pas une nouvelle religion, mais l'accomplissement de la Torah, une relation avec le Dieu vivant. Les chefs religieux étaient divisés à l'égard de Jésus. Il faut que nous, en tant que chrétiens, nous attendons que l'annonce de l'Évangile va provoquer une division. Parfois, nous ne sommes pas confortables et nous ne cherchons pas la division, nous ne cherchons pas le conflit, et on pense même que s'il y a conflit quand on parle de Jésus, c'est peut-être parce que nous, on a mal agi. Si nous pensons cela, c'est peut-être vrai, mais n'oublions pas que Jésus lui-même a provoqué, lui qui était sans péché, la division. Et la division, ce n'est pas la conséquence d'avoir mal agi, c'est la conséquence du message de l'Évangile. Et quand Jésus dit « Je ne suis pas venu apporter la paix, mais un glaive et la division », Il comprenait et nous disait que l'annonce de l'Évangile va toujours provoquer une division. Dans ma propre famille, je suis toujours, de mes parents, de ma fratrie, le seul qui croit en Jésus. Dieu m'a donné un amour plus fort pour eux, mais le fait que je sois devenu chrétien a provoqué division, au moins au début de ma conversion. Alors, si nous sommes des chrétiens fidèles, attendons-nous que l'annonce de l'Évangile, notre témoignage, provoque quelques remues, quelques changements, quelques conflits, quelques arguments. Ce n'est pas dans la culture britannique de vouloir remuer les choses, de chercher le conflit. Et en tant que Britannique habitant en Suisse, j'ai l'impression que ce n'est pas dans la culture suisse de vouloir argumenter et provoquer la division. Mais si nous sommes fidèles à annoncer et partager l'Évangile, attendons-nous que certains vont être attirés par le message et d'autres vont s'opposer. Regardons maintenant l'opposition et le caractère de l'opposition de ces chefs religieux, de certains de ces chefs religieux, parce que d'autres étaient ouvertes. Premièrement, on lit au verset 18 que les chefs religieux, les juifs, ne crurent point qu'il y avait été aveugle et qu'il avait pu voir. C'est-à-dire, ils n'ont pas cru au miracle. Ils refusaient de croire au miracle. Et puis, une fois qu'ils étaient convaincus que le miracle s'est bien passé, ils ont parlé avec les parents, ils ont parlé avec les voisins, ils ont parlé avec l'aveugle né, eh bien, ils ont dû accepter que le miracle était bien réel. Mais au verset 24, on voit qu'ils ont refusé l'origine divine de ce miracle. Nous savons, ils disent à propos de Jésus, que cet homme est pécheur. Et dans la plupart du monde aujourd'hui, sauf on pourrait dire à l'Occident, il n'y a aucune difficulté de croire au miracle. La question, c'est qui est à l'origine de ce miracle? Est-ce que c'est Dieu ou est-ce que c'est un mauvais esprit? Et on voit dans l'évangile de Jean, à certaines reprises, que les chefs religieux accusaient Jésus d'avoir un démon. Et à un moment, Jésus pose la question aux chefs religieux, « Pour quel de ces miracles voulez-vous me lapider ?» Et eux, ils ont répondu, « Pour aucun des miracles, mais parce que toi, un homme, tu te dis Dieu. » Le grand défi de la vie de Jésus, c'est qu'il se prenait pour Dieu lui-même. L'opposition des chefs religieux, de certains de ces chefs, c'est aussi très sournois parce qu'ils parlaient la langue religieuse, mais ils ne représentaient pas du tout Dieu. Ils avaient une belle langue, mais leur cœur était loin de Dieu. Verset 24, ils disent « Donne gloire à Dieu ». Verset 28, ils disent « Nous sommes disciples de Moïse ». Et souvent, dans le monde chrétien, on paye beaucoup de respect au monde du judaïsme. Et ce respect est tout à fait juste. Mais Jésus, en entendant que ces personnes se disaient disciples de Moïse, Jésus leur dit, et on le lit dans chapitre 5, « Celui qui vous accuse, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance, car si vous étiez véritablement des disciples de Moïse, si vous croyez en Moïse, vous me croiriez aussi, parce que Moïse a écrit à mon sujet. » Moi, je peux dire avec authenticité, comme Déborah, ma femme, nous sommes des vrais Juifs. Le vrai juif, c'est celui qui reconnaît que Jésus est le Messie promis. Ce n'est pas l'adhérent du judaïsme, c'est pas le juif psychanalyste ou athée, c'est le juif qui a reconnu Jésus comme son sauveur. Je pourrais dire la même chose que pour tout Suisse, Le vrai Suisse ou le vrai Britannique, c'est celui qui a rencontré Jésus comme son sauveur. Alors, attention à ceux qui parlent une langue belle, une langue religieuse. Souvent, Jésus va simplement dire « Loin de moi, vous qui êtes pécheurs, loin de moi, les hypocrites. » Même dans l'Église, à travers les siècles, l'antisémitisme a développé, s'est étendu au point que pour des Juifs, l'Église n'a pas été un témoignage de l'amour de Christ. Il paraît que c'est Gandhi qui a dit « Si les chrétiens étaient comme le Christ, le monde sera chrétien. » Et c'est Jésus qui réserve son jugement le plus virulent contre les hypocrites religieux. Et on voit dans ce texte que certains de ces chefs religieux n'étaient pas du tout sincères. Verset 19, on lit « Est-ce là votre fils que vous dites être né aveugle ?» Ils mettent pression sur les parents qui essayent de dire « Il est de l'âge, allez lui parler, il est bien né aveugle, il voit maintenant. » Et eux, ils mettent pression sans sincérité. « Est-ce là votre fils que vous dites être né aveugle ?» L'opposition face à l'Évangile se produit toujours. Mais regardons un peu la réaction face à cette opposition. D'abord, les parents avaient peur. Et souvent, la peur de l'Évangile nous pousse au silence. Regardons verset 18. Les Juifs ne crurent point qu'il avait été aveugle, qu'il avait pu voir, jusqu'à ce qu'ils aient fait venir ses parents. Ils les interrogent, disant, « Est-ce là votre fils que vous dites être né aveugle? Comment donc voit-il maintenant ?» Ses parents répondirent, « Nous savons que c'est notre fils, qu'il est né aveugle, mais comment il voit maintenant ou qui lui a ouvert les yeux? C'est ce que nous ne savons. Interrogez-le lui-même, il a de l'âge, il parlera de ce qui le concerne. » Est-ce que c'était vrai que ses parents ne savaient pas qui avait guéri leur fils? Absolument pas. On lit au verset 22, « Ses parents dirent cela parce qu'ils craignaient les Juifs religieux. Car les Juifs avaient déjà convenu que si quelqu'un reconnaissait Jésus comme le Christ, il serait exclu de la synagogue. » Alors j'imagine pour nous aujourd'hui, pour vous aujourd'hui, vous ne risquez pas d'être exclu de la synagogue. Mais il se peut que vous risquez d'être mis à l'écart au travail ou par des amis ou à l'école ou à l'uni si vous parlez trop ouvertement de votre foi en Jésus. Même les autorités religieuses, même certains qui s'intéressaient à Jésus, ils avaient peur. On lit dans Jean chapitre 12 au verset 42, « Même parmi les chefs, plusieurs crurent en Jésus. Mais à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu dans la crainte d'être exclus de la synagogue. » Et par cela, nous pouvons lire « Exclus de notre cercle d'amis, exclus de notre famille, des cousins, du travail. » Peut-être on peut perdre une promotion au travail, le crédit qu'on reçoit parce qu'on parle de Jésus. Et Jésus dit ceci, « Ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. » Et le psalmiste nous rappelle la crainte de l'Éternel et le commencement de la sagesse. Ce texte et cette histoire de l'homme aveugle-né est aussi un tremplin pour nous de prier que nous mettons la gloire de Dieu au-dessus de la gloire des hommes, afin que nous craignions l'Éternel et lui seul. La crainte, c'est une réaction tout à fait normale. Mais il y a aussi dans cette histoire une réaction de courage. L'homme aveugle-né a fait preuve d'un énorme courage. On le poussait à discréditer Jésus. Verset 24, les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme et lui dirent « Donne gloire à Dieu ». La façon religieuse de parler, « Nous savons que cet homme est pécheur ». Verset 29, « Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, en parlant de Jésus, nous ne savons d'où il est ». La pression qu'a subie l'homme avec le nez pour nier la guérison ou la guérison de la part de Jésus ou de nier que Jésus était un prophète. On remettait en question son témoignage. On l'appelait une deuxième fois, verset 26, « Qu'a-t-il fait ? Comment a-t-il ouvert les yeux ?» Est-ce que l'homme aveugle-né pensait sincèrement que ses chefs religieux l'interrogeaient une deuxième fois parce que eux, ils voulaient connaître la vérité? Absolument pas. Ils savaient très bien que cette pression, c'était pour rendre l'homme silencieux à l'égard de Jésus. Ils voulaient le faire taire. Et finalement, parce que l'homme ne voulait pas se taire, les chefs religieux ont montré leur vraie couleur, ils l'ont insulté. Verset 28, ils l'injurièrent. Verset 34, tu es né tout entier dans le péché et tu nous enseignes, et ils le chassèrent. Leur orgueil était piqué à vif parce que cet homme avait le courage et le culot de dire à ses chefs religieux, pourquoi voulez-vous entendre encore une fois mon témoignage? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? Verset 27. Ces paroles de l'homme aveugle-né, aucune éducation, parce que le braille n'existait pas, devant les chefs religieux de l'époque, et il leur demande, voulez-vous aussi devenir ses disciples? Et on voit de la réaction, tu es né tout entier dans le péché, qu'ils étaient tellement insultés, leur orgueil touché par cet homme aveugle-né. Et j'aime appeler cet homme l'homme qui a un sacré culot, ou on dirait plutôt un culot sacré. Et c'est une prière pour nous en tant que chrétiens que le Seigneur nous donne un culot sacré pour ne pas être intimidés devant ceux qui sont plus sages, qui ont plus d'éducation, qui sont plus riches que nous, pas intimidés par des amis qui pensent que notre foi est ridicule, mais de témoigner simplement de ce que Jésus a fait dans notre vie. Le témoignage de l'homme aveugle-né était tout simple. Verset 25, « Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et maintenant je vois. » J'étais aveugle et maintenant je vois. C'est Abraham Lincoln, ancien président des États-Unis, qui a dit une fois, « Nous péchons quand nous gardons le silence au lieu de parler, et ainsi nous devenons des lâches. » Je propose que le défi de l'Église, c'est de parler de Jésus-Christ. Nous avons besoin de parler du Seigneur, pas uniquement au sein de la communion fraternelle, du culte, des études bibliques et des réunions de prière, mais que Jésus soit annoncé au travail, qu'il soit annoncé à l'école, qu'il soit annoncé dans les fêtes de famille, dans les rencontres avec les amis chrétiens, afin que ce monde suisse, française, puisse entendre l'Évangile. Jésus dit dans Luc chapitre 12, je vous le dis, quiconque se déclarera publiquement pour moi, le Fils de l'homme se déclarera aussi pour lui devant les anges de Dieu. Mais celui qui me reniera devant les hommes sera renié devant les anges de Dieu. Et que le Seigneur nous donne ce culot sacré pour que nous ne renions pas le Seigneur par notre silence. Prions ensemble. Seigneur, merci que tu nous as appelés tous pour être ambassadeurs pour Christ. Merci Seigneur que dans ce passage, il est écrit que pendant que tu étais dans le monde, tu étais la lumière du monde, mais c'est simplement une façon de dire que nous sommes maintenant la lumière du monde. C'est nous que tu as appelés pour être la ville placée sur la colline, une lumière qui se tient sur la table, visible. Et Seigneur, nous voulons prier pour nous-mêmes que nous puissions être des lumières qui brillent pour toi par notre comportement et par notre parole. Seigneur, nous voulons aussi prier pour ceux qui ne te connaissent pas, nos amis, nos familles. Et nous prions, Seigneur, que tu agisses dans leur vie afin que Jésus devienne leur Seigneur. Seigneur, montre-nous aussi notre part à jouer, notre part pour témoigner que Christ est mort pour nos péchés et Christ est ressuscité. Amen.